Jésus disait aux docteurs de la loi, « Malheureux êtes-vous, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leur tombeau. » C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et en persécuteront d'autres. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, cette génération devra en rendre compte. Malheureux êtes-vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui essayaient d'entrer, vous les en avez empêchés. Après que Jésus fut parti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et ils le harcelaient de questions. Ils étaient à l'affût pour s'emparer d'une de ses paroles. Acclamons la parole du Seigneur. L'épître aux Romains est importante, surtout dans le cadre du dialogue avec le protestant. D'ailleurs, l'extrait que nous venons de proclamer touche un point fondamental, c'est celui de la justification par la foi. En fait, ce que Paul voulait dire, c'est que le salut que nous avons de Dieu est un don. Ce n'est pas un effort humain, ce ne sont pas nos exploits qui vont nous permettre d'avoir accès au ciel. C'est ce que Paul voulait dire. Que avoir accès au paradis, c'est un don de Dieu. Moi, l'image que je me présente, c'est tu te présentes devant le ciel, tu ne peux pas ouvrir la porte. C'est Dieu qui t'ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu mets un pas, tu entres. C'est ça ta contribution, tu entres. C'est ton désir, tu veux. Dieu ne va pas te forcer, tu ne prends pas le coup. Entre. C'est toi, ton désir. Alors, il y a eu beaucoup de discussions dans le passé parce que la partie protestante, c'était au XVIe siècle avec Martin Luther. En fait, l'idée, c'était que les œuvres, les actes qu'on pose, ça n'amène à rien. C'est pas ça qui va te sauver. Il ne faut pas mettre l'accent là-dessus. Les œuvres de charité, les autres œuvres, c'est plutôt Dieu qui donne. Alors, il y a eu tellement de discussions dans tous les siècles, 4 siècles de discussions, mais il y a eu un bon document qui est sorti dans les années 90 et qui est comme un consensus entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne. On est arrivé comme un consensus dans le sens que on reconnaît, la partie catholique reconnaît qu'en fait c'est un message biblique, que le salut c'est un don de Dieu, qu'il n'y a aucun effort humain qui peut gagner, comme on disait dans le ciel, je gagne le ciel. Il n'y a personne qui peut mériter le ciel. En fait, le ciel est donné par Dieu. Par contre, les protestants ont accepté aussi que celui qui a la foi, parce que c'est la foi qui justifie, c'est quand tu as la foi, alors tu es sauvé, Dieu te prend, pas tu as la foi. Alors, les protestants ont aussi accepté que, en fait, quand tu as la foi, tu ne vis pas de n'importe quelle manière. Quand tu as la foi, alors ta vie, tu l'amènes avec cette lumière-là de la foi. Donc, tu fais la charité, tu es miséricordieux, tu viens en aide aux nécessiteux. Alors, les deux, en fait, on a essayé de trouver un consensus, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, je me rappelle qu'une fois, j'avais prêché dans une de mes anciennes églises, et il se trouvait qu'il y avait des protestants là, puis j'avais prêché sur l'épître de Paul. J'ai insisté pour dire qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, le ciel est un don de Dieu. Alors lui est venu, un protestant est venu me voir, me dit, mais c'est la première fois que j'entends un prêtre catholique prêcher dans ce sens-là. J'ai jamais entendu une affaire comme ça. Il dit, mais non, c'est biblique, ça se trouve dans l'épître de Paul. Mais il ne faut pas oublier Jacques, Jacques il dit, écoute, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la mienne. Donc en fait, quand on a la foi, ça se dit, ça se vit, ça se voit. Donc les deux vont ensemble. D'ailleurs, les protestants s'apprêtent à célébrer le début de leur réforme qui sera dans 2 ans. Ils vont fêter 500e anniversaire, donc demi-millénaire de leur existence. Et nous, quand nous allons fêter le 150e anniversaire du Canada, eux auront le grand anniversaire. Et j'espère qu'à cet anniversaire-là, j'imagine que les deux églises viendront encore préciser davantage qu'est-ce que ça veut dire seule la foi sauve, qu'est-ce que ça veut dire être justifié par la foi. Donc ce sera bien probablement qu'on va éclairer encore là-dessus. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'en fait, le Seigneur avait le courage de dire les choses telles qu'elles se présentaient. Ce qu'il cherchait, lui, c'est d'amener ses interlocuteurs, surtout les pharisiens et les docteurs de la loi, à réaliser ce qu'ils faisaient réellement, à être authentiques dans leur message. Et je trouve que ce n'est pas toujours facile de dire la vérité. Et même parfois, comme chrétien, comme baptisé, dans certains pays, c'est encore difficile de prêcher la parole de Dieu avec une certaine liberté, de pointer les doigts où les choses ne fonctionnent pas. Je me rappelle quand je grandissais à Lubumbashi, au Congo. Alors à l'époque, dans les années 70, c'était le président Mobutu qui finalement commençait à tout réclamer et il voulait écraser l'Église catholique qui en fait est encore une force aujourd'hui au Congo. Alors, il suffisait que dans l'Église, tu disais un mot pour dénoncer ce qui s'est passé au pays. On disait que ce prêtre-là fait de la politique. Alors, dans les églises, il y avait des gens, des personnes dont on appelait le mouvement populaire de la révolution. Dans toutes les églises, le président, ce président était arrivé à voir des gens dans tout le pays. Dans les églises, quand le prêtre prêchait, il y avait des gens dans l'église. Et on suivait exactement ce que le prêtre disait. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, que tu disais contre Mobutu, ça allait directement à la police et puis on venait te chercher, on t'interrogeait, etc. Alors, c'était un temps difficile que les prêtres, l'Église catholique a vécu dans les années 70, même 80. Et ça peut arriver dans certaines circonstances où proclamer, dire la parole de Dieu devient difficile. Dire la parole, la vérité, quelque chose se passe, devient difficile. Alors, on regarde notre Seigneur qui, avec la force de Dieu certainement, ce qu'il cherchait, c'est le bien des gens qu'il a voulu dire. Alors nous, quand nous regardons dans notre monde d'aujourd'hui, ça devient difficile, pas qu'on est persécuté, mais on est boudé, on n'est pas accepté. Quand on veut se réclamer de Dieu, quand on veut réclamer sa foi, dire qu'on croit en l'au-delà, qu'on croit en l'existence de Dieu, qu'on croit que Dieu est présent dans nos vies, il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux tout grands et puis qui s'étonnent. Hein, à tel point que parfois les gens évitent de se dire leurs convictions au travail, dans les sociétés, là où ils sont, dans des compagnies, etc. Je me rappelle un cas, une personne me disait qu'il avait toujours travaillé avec une autre. Un jour, il se retrouve dans une église. Il dit, comment toi tu... Oui, oui, mais je n'ai jamais su à moi non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se partagent jamais leurs convictions. Personne ne veut parler de sa conviction là où on est, là où on vit. Alors, parfois, il peut y avoir des circonstances où c'est difficile de dire la vérité. Alors le Seigneur aujourd'hui nous invite au fait à être ce que nous sommes. On le dit pour le bien des autres. Alors je crois que le travail du prêtre c'est cela. Dans la mesure du possible, avec la grâce de Dieu, le concours de l'Esprit, arriver à professer la vérité, à conduire les gens dans la vérité, à marcher vers la vérité qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu. Regardez Sainte Thérèse d'Avila. On raconte que quand elle était petite, elle voulait aller directement chez Dieu et se disait, écoutez, avec son frère, elle voulait aller se battre contre les morts, les musulmans. Elle disait, on va se battre, on va mourir martyr, et direct, on va aller chez Dieu. Elle voulait vraiment voir Dieu déjà quand elle était jeune. Mais évidemment, avec le temps, elle va comprendre que le Seigneur l'invite à devenir une religieuse et puis à devenir carmélite, comme on le sait. Ensuite, ce qu'on retient d'elle, c'est l'oraison. Elle va beaucoup travailler sur l'oraison, elle va écrire beaucoup sur l'oraison. L'oraison qui est cette prière silencieuse où tu essaies d'entrer en toi-même, d'entrer en communion avec Dieu. Elle-même disait, en fait, tu fais du seul à seul avec Jésus. C'est Jésus et tu es convaincu de son amour pour toi. Tu entres en intimité avec lui, tu t'adresses à lui, tu le contemples dans le fond de toi-même. Durant 2 heures du temps, les carmélites faisait cette application-là, cette cette pratique-là de prière de l'oraison. Et moi, je trouve que l'oraison est une invitation que nous lance Thérèse d'Avila aujourd'hui. C'est un exercice que chacun, chacune de nous doit avoir, doit faire. Que le matin, on se lève, même quand on est dans sa chambre, parfois quand on est dans la voiture seul avec les trafics, souvent nous ouvrons la télévision, je veux dire la radio, et on veut écouter, mais enfin, parfois c'est bien de garder le silence, de prier dans son cœur, entre-temps on fait attention pour la route, trouver des moments de prière, de silence, de dialogue avec Dieu, c'est important pour l'âme. Et je trouve que c'est une belle invitation que nous lance aujourd'hui Thérèse d'Avila. Alors, juste une chose en ce qui concerne le sacerdoce, moi je me dis, le Seigneur fait parfois des choses merveilleuses, c'est-à-dire que on ne s'attend pas toujours à certaines choses. Moi, par exemple, j'ai été frappé dernièrement. J'ai un neveu qui est marié maintenant et puis il a des enfants. Mais j'étais frappé de voir que j'avais appris que lui m'a dit dernièrement que la chose qu'il a frappée, qu'il a gradée dans sa vie pour toujours, c'était le jour de mon ordination. Je n'en revenais pas. D'ailleurs, je ne me rappelais même pas s'il était là à l'ordination. Il me rappelait qu'après l'ordination, on avait été ordonné à la cathédrale, donc dans le centre-ville de Lubumbashi. Alors, avec les moyens de transport qui n'étaient pas toujours disponibles, il me rappelait qu'avec la maman, avec les membres de ma famille, ils avaient quitté la cathédrale, ils allaient, ils chantaient, ils dansaient en cours de route jusqu'à la maison. Lui, il avait, je crois, 6-7 ans. Et il me dit que pour lui, c'est la cérémonie la plus grande et c'est qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Je n'en revenais pas. Et puis quand je regarde tous mes cousins, et puis mes neveux, mes nièces, lui, la pratique. Il va chaque dimanche à la messe, il fait baptiser ses enfants. Il est membre du conseil paroissial, il est à Paris. Il est membre du conseil paroissial d'une petite paroisse à Paris. Je n'en revenais pas. Je l'ai appris il y a 2 ans. Je n'avais jamais su ça. Et puis, ce sont des choses que le Seigneur fait, touche le cœur des gens, toi, tu n'es au courant de rien. Voilà. Donc, pour dire que le Seigneur nous aide et puis fait des choses. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour des années, 32 ans de sacerdoce, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va continuer de faire. Amen.